7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, un débat sur le luxe et la mode. Pourquoi le luxe ne semble pas flancher malgré la pandémie et la crise économique mondiale? Bâti sur du rêve, de l'affichage social, la réalité devrait en toute logique être cruelle pour le shopping hors de prix. Fini les festivités, les mondanités, plus de voyages pour rapporter des objets convoités, plus vraiment de fashion week pour dicter le tempo haut de gamme, des boutiques fermées dans bon nombre de pays et beaucoup de familles moins riches. Alors quelle place pour le luxe dans des vies ternes? Le chiffre d'affaires de l'industrie du luxe devrait baisser de 20% en 2020, mais les ventes repartent déjà en fin d'année. De quoi faire frémir l'action LVMH de 7%. L'industrie du luxe en profite pour se réinventer et s'appuyer sur d'autres acheteurs, les jeunes, la génération Z, les moins de 25 ans. Des enfants gâtés en famille, mais nés sous une mauvaise étoile côté marche du monde. Nous allons en parler de ces enfants terribles du luxe, habitués des ventes en ligne, de la mise en scène sur Instagram, Snapchat ou TikTok, et qui dictent désormais leurs envies aux grandes maisons entre provocation et conformisme. Comment le secteur du luxe peut-il séduire cette génération des 15-25 ans, voire même des 12-25 ans parfois, malgré des prix élevés? Quelle manne représente la jeunesse pour l'industrie du luxe? Nous allons en discuter avec vous, Éric Brionne, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes cofondateur de la Paris School of Luxury, tout de suite ça va mieux en anglais. Vous avez publié Le Choc Z, la génération Z, une révolution pour le luxe, la mode et la beauté aux éditions Dunod. Et vous sortez d'ailleurs bientôt un livre de circonstances, Luxe et résilience, apparaître en janvier prochain. Merci en tout cas d'être avec nous chez 7 milliards de voisins.
Merci Emmanuel.
Dans le studio, notre partenaire mode Marie-Jeanne Serbin-Thomas. Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour Emmanuel.
Vous sillonnez le continent africain pour dénicher les talents et puis comprendre aussi les tendances. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Brune, un magazine que vous avez créé. Et en Afrique aussi, une certaine jeunesse dorée, ultra minoritaire bien sûr, veut sa part de luxe. On en discutera. Également avec nous, Yeba Olaye. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous êtes en ligne de Bruxelles, vous êtes créatrice de la marque de maroquinerie Yeba, vous êtes d'origine béninoise, vous nous raconterez un petit peu votre parcours et puis à qui vous vendez cette maroquinerie de luxe. Et bien sûr, on va regarder vers l'Asie, c'est le continent qui tire les ventes de luxe depuis plusieurs années avec des reportages en Corée du Sud et en Chine.
Le luxe est le caractère de ce qui est coûteux, raffiné et somptueux.
Oh my God.
Et tout de suite, direction la Chine, où les achats de luxe se sont envolés une fois l'épidémie de coronavirus sous contrôle. La Chine qui devrait devenir le plus grand marché mondial du luxe d'ici 2025. 2025, c'est presque demain, avec de jeunes Chinois choyés par les grandes marques, des consommateurs boulimiques, mais également très exigeants. Reportage de notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde.
Bonjour évidemment à nos 7 milliards de voisins, nous sommes dans un centre commercial ultra chic du quartier des affaires au centre de Pékin. Plus de 800 boutiques ici. Ça brille de partout, hein. Vraiment, il y a quasiment du marbre par terre. Il y a toutes les grandes marques et je suis avec Huang qui va m'accompagner pour aller à la rencontre de ces jeunes consommateurs chinois qui ont un peu sauvé hein, l'industrie du luxe quand même ici. Je crois que c'est Hermès, hein, le français, qui disait à l'automne qu'il avait fait un troisième trimestre très performant grâce justement aux consommateurs chinois et notamment à ces jeunes consommateurs. Alors on est au milieu des boutiques. Et nous avons un jeune homme qui s'approche, alors très bien habillé, il est avec son ami, il a un grand sac. On va lui demander ce qu'il a acheté d'abord.
Je ne suis pas de Pékin, je profite de l'occasion pour acheter des chaussures à mon épouse. J'achète des produits de luxe régulièrement, disons pour chaque nouvelle saison. C'est ma mère qui me donne l'argent, je commande via une application spécialisée dans la vente de produits de luxe. En fait, je fais souvent mes courses sur internet.
Des achats en ligne, mais un client exigeant, Ruyadong, 24 ans, selon un sondage réalisé par l'institut Ruchiu pour le magazine Vogue, une enquête menée dans 132 villes chinoises, et bien près de 35% des consommateurs nés avec le millénaire prennent connaissance des marques et des produits en discutant avec des amis notamment via les réseaux sociaux. Allez, on va maintenant aller voir du côté des vendeurs ici. Beaucoup sont masqués dans ce centre commercial, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de cas locaux de contamination à Pékin depuis maintenant près de 5 mois. Nous avons devant nous une boutique d'une marque française de prêt-à-porter haut de gamme. Comment vont les affaires ? C'est le manager qui nous répond.
Les choses sont presque revenues à la normale. La Chine a réussi à maîtriser l'épidémie et les clients sont là. Le marché est très prometteur. C'est évidemment lié au développement de la Chine, mais c'est aussi lié aux jeunes consommateurs chinois. Contrairement aux générations précédentes, ils sont moins influencés par le marketing. Ils répondent à leur propre code, leur propre style, en fonction de leur goût.
Les goûts et les couleurs des jeunes consommateurs chinois avec cette année une ruée sur les cosmétiques et le sportswear, c'est ce que disent les chiffres des ventes, notamment en ligne. Si les sacs à main restent une valeur sûre en matière de luxe, bien sûr, il y a beaucoup de sacs ici proposés en boutique dans ce centre commercial. Les chaussures servent de marqueur pour la jeune génération, nous a dit cette cliente pékinoise.
Moi, je suis venue acheter des chaussures pour mon copain. C'est important les chaussures, surtout pour les hommes. On a regardé les nouveautés sur les sites et maintenant on vient essayer. Pour le haut de gamme, je préfère acheter en magasin.
Les achats dans ce centre commercial haut de gamme à Pékin ou sur Internet, les marques ont ici de toute façon peu de soucis à se faire. Avec le coronavirus, les Chinois ne voyagent plus, ils consomment sur place. Le marché du luxe devrait atteindre 44 milliards d'euros cette année en Chine. Voilà, c'était Stéphane Lagarde et Wang Shenkuang pour 7 milliards de voisins sur RFI à Pékin, bien sûr.
Brionne. Il y a quand même des choses assez inattendues dans ce reportage hein, pour ceux qui ne sont pas spécialistes du luxe. Moi, j'achète des chaussures pour mon épouse. C'est ma mère qui me donne de l'argent. On a des consommateurs très jeunes. Est-ce que vous pouvez décoder un petit peu avec nous cet engouement des jeunes Chinois ?
Totalement. Bah, je vous donner des chiffres, pas vraiment le plus concret, si vous voulez, qui montre l'état. La Chine, en 2020, ça va être plus 45%. Du luxe, plus 45% de croissance. L'Europe, moins 37, les USA, moins 27. Wow. Donc vous voyez, tout le monde est dans le rouge, et la Chine, plus 45%. Et quand on creuse, 70% du business du luxe s'est fait cette année sur des acheteurs de moins de 30 ans. Donc on voit que c'est véritablement eux qui drainent la croissance, et le chiffre qui est assez étonnant, d'ici 4 ans, 50% du business du luxe, c'est en Chine et avec les Chinois. Donc vous voyez, il y a quasiment, on est à plus de 50% et là, donc il y a vraiment un monopole. Alors, ce qui est très intéressant, en effet, si vous voulez, c'est que c'est pas une passion qui date d'hier, simplement, il y a une intensification. La jeunesse chinoise, déjà, une, elle n'est pas unique, elle est multiple, et ce qui s'est passé, c'est qu'on voit, et les chiffres le montrent, que pendant cette crise du coronavirus, parce qu'eux, ils sont dans le monde post-corona, hein, soyons clairs, nous, on est en plein dedans, eux, ils sont déjà sortis, quelque part, sur le sujet, et ben le lien affectif entre eux et le luxe s'est intensifié. Le luxe a une grande part dans ma vie, dans ma vie quotidienne. Le luxe est indispensable. Donc vous voyez, il y a un rapport indispensable et quelque part, c'est un peu le titre du bouquin qui arrive, hein, Luxe et résilience. Oui. J'achète du luxe et c'est une preuve, une démonstration pour moi-même, mais aussi pour les autres, que je suis résilient et que la crise ne prend pas sur moi.
Ouais, quand vous nous dites les moins de 30 ans, quand même, quand on a moins de 30 ans, même si on a fait des études, on ne gagne pas énormément d'argent. Oui, avec quoi on achète ça ?
Ah bah déjà, un, bah la politique du fils ou de la fille unique, oui. Donc vous voyez ici, déjà il y a le premier
les
point.
Les enfants gâtés.
Bah, il y a cet enfant gâté, clairement là, qui en plus dicte sa loi auprès de sa mère. Hein. Ici, la recommandation, la mère copie la fille. Hein, vous voyez, ça c'est le premier point. Mais tellement enfant gâté qu'il y a aussi un côté négatif, c'est qu'ils adorent les marques de luxe, mais ils adorent aussi shooter les marques de luxe. Le nombre de scandales qui arrivent auprès d'influenceurs qui, pour finalement arriver, si vous voulez, à être de plus en plus influents, dégomme, attaque frontalement des marques de luxe, fait partie aussi du jeu. Ils achètent, mais en même temps, vous voyez, c'est un peu comme Néron, ils pointent le pouce. Et vous avez des attaques, Hermès a subi des attaques par rapport à son rouge à lèvres, par exemple, vous savez, ce fameux rouge à lèvres qui est sorti à 65 euros, eh bien, il a été attaqué en disant que c'était pas de la qualité, que la qualité prix n'était pas là, que les couleurs étaient faites pour leur vieille ouais, maman.
Ça devient un débat géopolitique, quoi. C'est ça, ils mettent tout sur le même plan. Alors, justement, qu'est-ce que vous parliez évidemment des influenceurs, des influenceuses, qu'est-ce qui donne des idées de luxe aux jeunes? Eh bien, il suffit de se demander que fait un jeune en se couchant, en se réveillant en pleine nuit, en se levant le matin. Il regarde ses notifications de réseaux sociaux sur son smartphone et les nouveaux posts, évidemment, de ses idoles. Reportage tout de suite en Corée du Sud, le pays où 95% de la population utilise Internet tous les jours. Nicolas Roca, notre correspondant, a rencontré Ko Siumin, une influenceuse d'une vingtaine d'années qui monnaie son succès auprès des grandes marques.
Bonjour à tous, c'est Ko Siumin, professeur fashion. Je suis de plus en plus connue car je vais être interviewée par un journaliste français de RFI. Merci d'être sur ma chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.
Comment est-ce que vous travaillez avec les différentes marques de mode ?
Alors j'essaie de promouvoir les marques dont les produits sont durables et de très bonne qualité. Je ne veux pas promouvoir des produits qui seraient de l'achat compulsif à usage unique. Il y a beaucoup de marques qui essaient de me contacter pour que je fasse des vidéos sur leurs produits. Mais j'essaie autant que possible de ne travailler qu'avec des marques qui respectent mon éthique personnelle.
Donc là, vous êtes venu avec des cadeaux. Est-ce qu'on pourrait voir par exemple, sans nommer la marque, le type de cadeau que vous recevez ?
Majoritairement, les cadeaux que je reçois sont des marques que j'apprécie, au-delà du design, mais surtout pour ce qu'elles sont, ce qu'elles représentent. Il y a une tendance à une mode plus éthique, plus responsable, où l'on accepte de payer plus cher pour de meilleurs produits. Par exemple, mon sac, c'est un cadeau qui est fait par un designer coréen et intégralement produit ici. La plupart de mes collaborations se font avec des entreprises qui ont leurs usines en Corée du Sud, avec tout le processus de production sur place. Regardez mon collier, il est fait entièrement en or recyclé, ici. Toute la chaîne de production est responsable, donc j'essaie aussi de rentrer en contact avec les marques que j'apprécie pour cette raison.
Les marques de luxe, de plus en plus, essayent de cibler les plus jeunes à travers des campagnes sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que vous sentez cette concurrence, vous sentez cette tendance de la part des marques de luxe à essayer de se concentrer plus sur les jeunes ?
En Corée du Sud, c'est certain que les marques de luxe ont une volonté de rajeunir leur cible. La majorité des entreprises ont bien compris que les jeunes adolescents, ici, veulent s'habiller comme des stars de K-pop. Alors ils vont lier des partenariats avec les idoles des plus jeunes. Mais si les entreprises de luxe sont plus présentes sur les réseaux sociaux qu'avant, elles ont aussi essayé autant que possible de rajeunir les designs. Malgré tout, même s'ils sont la cible, je ne trouve pas que le luxe est un succès important chez les plus jeunes. C'est plutôt à partir de 25 ans, quand leur pouvoir d'achat leur permet de s'habiller avec des produits de luxe.
Éric Brionne, alors jeunesse sud-coréenne, jeunesse chinoise, tout ça, c'est la même chose ?
Non, c'est pas la même chose. La Chine est à l'avant-garde, hein, clairement, hein, si vous voulez. La spécificité, je trouve, de la jeunesse chinoise par rapport à la jeunesse coréenne, c'est sa fierté patriotique. On consomme du luxe, on est fier d'être chinois. Et quand une marque fait une erreur, alors là, c'est terrible. Parce que, vous savez, c'est qui opinion leader, hein, c'est leur opinion. Quand ils postent un message, c'est vu par des dizaines de millions de jeunes. Donc vous voyez après le phénomène de contamination qui est là. Et cette fierté patriotique, vous voyez, ce qui est très amusant, c'est quand on interroge ces jeunes, on voit que les actions qu'ont fait concrètement les grandes maisons de luxe pour supporter la Chine au début de Covid ont été extrêmement appréciées. Et vous voyez juste un symbole, regardez en ce moment où est la seule exposition Vuitton à travers le monde, c'est à Wuhan, vous voyez, au centre de l'épidémie du point de départ. Donc cette fierté, elle est là. Et ce qui est très amusant, c'est qu'attention, la Chine s'éveille aussi, la beauté chinoise cartonne, fait par des marques chinoises. Et ce qui est très intéressant, c'est que les archétypes de cette beauté chinoise, elles sont beaucoup plus, bah, quelque part, pop féministe, beaucoup plus dures par rapport à, justement, une K-pop qui est beaucoup plus douce. Donc c'est très différent. Il n'y a pas qu'une Chine, il y a beaucoup de communautés, de tribus très différentes. Donc attention à ne pas globaliser.
Oui, alors la part des jeunes en Corée du Sud, entre 20 et 29 ans, qui achètent des marques de luxe, augmente. Hein, ils sont passés de 5% à 12% en 2019. Et ils n'achètent pas que du Made in Korea. Évidemment, ils achètent des marques internationales et notamment des marques françaises. J'aimerais poser la question à vous, Marie-Jeanne Sermin-Thomas, à Yeba Olaye aussi. Selon les continents, les cultures, la jeunesse acheteuse de luxe, est-ce qu'elle est complètement mondialisée ou pas ? Parce qu'on entendait dans les reportages, ils aiment les sacs, les chaussures, les cosmétiques, les sportswear. C'est pareil partout, Marie-Jeanne ?
Alors, c'est pareil partout, mais après, c'est une histoire de chiffres. Vous savez que la Chine est la deuxième économie mondiale, ce qui n'est pas le cas donc, de beaucoup de pays d'Afrique. Donc, la jeunesse rêve, effectivement, et elle rêve de ce qu'elle voit. Et ce qu'elle voit, ce sont les produits des gens qui sont les plus forts au niveau du marketing, qui vont s'adresser à eux. Alors, si vous faites une petite recherche rapide, hein, on peut dire qu'aujourd'hui, 99% des marques de luxe utilisent aussi des mannequins noirs, des mannequins asiatiques, alors qu'il y a 3 ou 4 ans, ce n'était absolument pas le cas.
Donc les canons de beauté se mélangent.
Alors, il y a une espèce, si vous voulez, on essaie de diluer finalement toutes les ethnies dans un produit de luxe pour dire que ça vous concerne tous. Donc ça, c'est la réalité et c'est vrai que ça marche. Mais le pouvoir d'achat des jeunes en Afrique est beaucoup moins important. Ceci dit, je peux vous le dire en exclusivité, hier, à Londres, il y a un monsieur qui s'appelle Alexander Amouzou qui vient de lancer la première plateforme de luxe, mais vraiment grand luxe, à destination de l'Afrique et du monde, qui va présenter donc des produits très très haut de gamme, mais également qui va attirer vers lui des créateurs africains qui font du luxe. Pourquoi ? Parce qu'ils sentent qu'il y a une demande. Pour la petite histoire, M. Amouzou est nigérian et c'est lui qui avait créé le costume le plus cher au monde et qui avait un Blackberry qui valait dans les 250 000 euros et qui était constellé de diamants. Donc, ce genre de personnage est lui-même une figure emblématique d'une forme de luxe et qui draine autour de lui toute une population de jeunes, même s'ils n'ont pas les codes du luxe, même s'ils n'ont pas les moyens du luxe d'une manière ou d'une autre, avec des copies. Mais ils auront déjà, ils connaîtront les marques et c'est déjà un pied qui est mis, si vous voulez, dans leur imaginaire, de leur envie de consommer. Alors, donc ça, c'est la réalité.
Tout de même, cet engouement des jeunes pour le luxe, c'est quand même assez récent. C'est encore surprenant, y compris pour des acteurs du luxe eux-mêmes. Yeba Olaye, vous avez été surprise de vous rendre compte que vous vendez vos sacs assez chers, hein, ce sont des produits de luxe, à des jeunes.
Oui, tout à fait. Oui, le constat que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui, on est face à une jeunesse qui est pleine d'aspirations, qui ne veut pas non seulement acheter un produit, mais qui veut acheter tout l'univers qui va avec et toute la promesse d'adhérer à cet univers et à ces personnes, à ces communautés qui portent les mêmes produits. Et ce que j'ai réalisé à travers la marque, c'est que quand vous racontez une histoire forte et quand vous leur démontrez qu'avec votre produit, ils vont pouvoir recréer leur propre univers à eux et le sublimer, sur des valeurs beaucoup plus authentiques. Chez moi, on parle vraiment de se réaliser en tant que personne, en tant que femme, en tant que talent et potentiel. Tout de suite, votre produit est auréolé d'une valeur supplémentaire.
Mais à la base, vos sacs, ils sont de très grande qualité, sont fabriqués en Italie, ils coûtent plusieurs centaines d'euros. Ils ont plutôt été pensés pour la femme active qui travaille, qui est puissante, qui a un gros job sur le continent africain notamment.
Je pense que ce n'était pas limité au continent africain, mais au départ, c'était très targeté vers la femme justement établie, qui a une carrière.
Voilà, donc pas les jeunes. Vous n'aviez pas imaginé que vous alliez parler aux jeunes au départ.
Non, pas vraiment. Au départ, c'était vraiment pour une femme beaucoup plus établie, de 35 et plus, qui cherche une pièce qui est l'équivalent d'un Mont Blanc qu'elle va pouvoir poser sur la table pour montrer un certain statut. Et j'ai constaté, en fait, en développant le storytelling de la marque, qui est, vous pouvez vous aussi vous réaliser et inspirer toute cette ambition qui est en vous, mais on a réalisé que les personnes, en tout cas j'ai réalisé que les personnes qu'on attirait le plus, c'était les plus jeunes. C'était les jeunes femmes qui, aux sorties de l'université de 24-25 ans, pleines d'aspirations, qui se disaient « mais moi il me faut cette pièce parce qu'elle va m'accompagner dans ma réussite sociale
et dans mes rêves ». Et ces jeunes femmes, elles sont où géographiquement ? Celles qui achètent vos sacs.
Géographiquement, en fait, j'ai été étonnée de voir qu'elles sont aussi bien en Europe, on va dire, sur la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Angleterre, qu'aux États-Unis, à New York, et dans les grandes capitales africaines. Et là, j'ai relancé la marque avec un tout, tout nouveau concept pour englober une histoire plus grande et plus universelle encore. Et là, je me rends compte que les jeunes femmes africaines sont, en plus d'être attirées par la promesse de la marque, elles ont une certaine fierté de vouloir porter une marque qui est lancée par une femme comme elle, une femme noire. Et quelque part, quand je vois les messages qu'elles me renvoient, elles ont besoin d'être assimilées à un modèle de réussite. Elles ont besoin que l'une d'entre nous réussisse. Et quelque part, ça donne une force et une puissance que je n'avais pas imaginée avant. Ce modèle communautaire qui est très vertueux. Nous réussissons, vous réussissez aussi.
Alors moi, je m'interroge quand même sur le pouvoir d'achat de tous ces jeunes, hein, d'autant plus que vous avez donné les chiffres, Éric Brionne, tout à l'heure. Hein, les États-Unis, l'Europe, ça se casse complètement la figure économiquement. Si on enlève l'Asie avec les fameux enfants gâtés et uniques dans les familles chinoises, alors, qu'est-ce qui fait que ces jeunes ont du pouvoir d'achat? Est-ce que ça veut dire qu'on s'achète une pièce et qu'on vraiment on casse sa tirelire pour s'acheter le sac de ses rêves et que le reste du temps, bah, on est en jogging avec des baskets bas de gamme, etc. Ou comment ça marche économiquement, cette clientèle? C'est pas une clientèle qui achète que du luxe.
Alors, attention, en effet, les États-Unis ont souffert et finalement sont bien mieux résistants depuis l'été. Il y a une flambée depuis l'été et juste, on parle de l'Afrique, mais je vais citer un exemple. Alors pas sur les femmes cette fois-ci, j'ai cité forcément Louis Vuitton homme avec Virgil Abloh comme grand créateur. Eh bien, cette marque, elle cartonne aux États-Unis auprès des jeunes afro-américains. Mais c'est ça qui est extrêmement intéressant ici.
Qui n'est pas la partie de la population qui a le plus gros pouvoir d'achat aux États-Unis, entendons-nous bien.
Sauf que quand on analyse les chiffres, si vous voulez, quand on voit les hauts revenus, on voit qu'il y a la jeunesse, une jeunesse afro-américaine et accède à ces niveaux de richesse et c'est tant mieux. Donc c'est vraiment, vous voyez, une cible qui monte en puissance d'un point de vue marketing et qui est célébrée ici. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les jeunes achètent différemment le luxe. Aujourd'hui, le luxe est face à un énorme défi, c'est le second marché. C'est-à-dire que c'est quoi le second marché? C'est le marché d'occasion. Et on voit que la Gen Z, elle adore le luxe, mais elle adore acheter le luxe d'occasion, de seconde main, pour faire des bonnes affaires, pour l'acheter aujourd'hui, peut-être le revendre demain. Donc vous voyez, c'est une façon d'accéder différente. Et même, ça peut être même politique. C'est assez extraordinaire. Chez les jeunes, si vous voulez, il y a une prédominance de la narration visuelle. C'est le visuel qui est extrêmement important. Style is power, souvent, ils nous le disent, si vous voulez. Et ce qu'on voit, c'est que l'objet de luxe, ça devient le totem des engagements, le totem de mes convictions politiques. Et c'est ce qu'on voit concrètement dans plus en plus de marques de luxe aujourd'hui, c'est qu'elles sont de plus en plus progressistes, politiques, engagées écologiquement, dans l'inclusivité. Donc, pour un jeune, porter du luxe, c'est porter en étendard ses valeurs. C'est complètement nouveau, si vous voulez, par rapport à, entre guillemets, donc vous voyez, ce luxe politique et cette seconde main qui change tout pour moi.
Alors, la seconde main, on va en reparler, hein, de l'aspect politique et des valeurs du luxe et comment ça influence les jeunes et vice-versa, comment les jeunes aussi influencent le luxe. Mais le marché de la seconde main, tout ça, ça n'est possible que grâce au digital, notamment.
Exactement, ça explose complètement. On parlait des sneakers, vous voyez là, on citait justement nos amis chinois avec les sneakers de luxe. Le marché de la sneaker de luxe, ça va être 30 milliards d'euros pour 2030. Vous voyez un petit peu ce marché extraordinaire. Oui, ça passe par des acteurs
baskets,
de la montre en passant par...
Alors le digital, évidemment c'est pour accéder à des produits de luxe, plus besoin d'aller en boutique, hein, où que l'on soit dans le monde, pour acheter première main ou deuxième main. Et évidemment ça passe aussi par des influenceuses, elles ne sont pas qu'en Corée du Sud et en Chine.
Ma maman est styliste, je l'ai toujours vue coudre, créer et sublimer les femmes qui rentraient dans sa boutique. J'ai grandi dans les chutes de tissus et c'est là qu'est né mon amour pour la mode. Je vois le style de quelqu'un comme l'extension de sa personnalité. Tu vois, moi j'ai commencé à m'habiller comme les filles de l'école juste pour rentrer dans le moule. Je portais des Ben Simon alors que je détestais les Ben Simon. Et puis en grandissant, j'y ai vu comme mon armure du quotidien. Un petit motif de satisfaction et un grand booster de confiance personnelle. Et dans le milieu de la mode, il existe un événement très convoité, la Fashion Week. Je séchais les cours, pas pour assister au défilé car j'avais pas d'invitation, mais pour voir l'ambiance au jardin des Tuileries. Tenter de négocier une petite place avec la sécurité et voir les gens que j'admirais en espérant un jour être à leur place. Et ce un jour... c'est aujourd'hui. C'est avec un grand sourire que je vous annonce qu'après 4 ans à faire des vidéos, à me faire une petite place, les invitations au défilé cette saison sont arrivées. Et aujourd'hui, les copains, on va vivre notre toute première Fashion Week. Et il n'existe pas de livre, la Fashion Week pour les nuls. Alors faisons-le nous-mêmes.
Oui, alors je précise que si vous avez plus de 25 ans, vous ne pouvez pas avoir reconnu cette voix parce que vous ne la connaissez pas. Elle s'appelle Lena Situations. Marie-Jeanne Serbin-Thomas, peut-être vous la connaissez. Yeba Olaye, vous la connaissez si vous vendez du luxe.
Sur Insta,
oui. Bah, voilà, forcément. Extrait de sa vidéo, La Fashion Week pour les nuls, postée il y a quelques jours. Elle a 22 ans, 1,5 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube. C'est ce qui s'appelle une modeste youtubeuse française, hein, Éric Brionne.
Bah, elle me touche parce a été une de mes étudiantes pendant 2 ans, Léna. Donc, elle a très bien appris. Elle a séché, mais elle a très bien appris. Non, c'est véritablement un phénomène construit avec intelligence. Et aujourd'hui, elle donne le là. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au départ, elle était plutôt sur des marques très accessibles et que maintenant, elle est désirée par les plus grands.
On parlait du digital, c'est toutes les marques se sont mis au digital pour vendre, pour raconter aussi toute une histoire autour de leur marque. Hein. C'est pas seulement la vente en ligne, on est bien d'accord.
Oui, mais ça date pas d'hier aussi. Vous voyez, en fait, c'est comme un peu de nuance. La cible jeune, c'est venu de la mode des milléniaux. Vous vous rappelez la fameuse génération Y. Déjà, ils aimaient le luxe. Donc, vous voyez, ça fait des années que le luxe se prépare, en fait. Le luxe, déjà, et j'ai fait nombre de conférences et je les conseille, sont obsédés par cette capacité à attirer toujours des nouveaux entrants. Et ces nouveaux entrants, c'est les jeunes. Ça, c'est le premier point. Le digital, c'est pas d'hier non plus. Les premières boutiques, les premières e-shops, comme on dit, Hermès, c'était au début des années 2000, vous voyez ici. Ce qui est nouveau, c'est la part que ça prend. C'est qu'aujourd'hui, la part des achats en ligne cette année, ça va être 23%. Et d'ici 2025, plus de 30%. Même certains disent que le premier canal de vente d'ici 5 ans, c'est plus la boutique physique, c'est le digital, c'est l'e-commerce.
Est-ce qu'il y a des marques qui se sont perdues en chemin pour justement tenter de rejoindre les jeunes ?
Je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Aujourd'hui, si vous voulez, si on fait un panorama, qui souffre, qui gagne ? Ce qui gagne, c'est les forts. Les forts sont encore plus forts avec cette crise. C'est terrible, mais c'est une réalité.
Et ceux qui vendent très cher pour ce que c'est aussi ? Le luxe moyenne gamme, ça marche moins bien chez les jeunes alors qu'ils n'ont pourtant pas beaucoup de pouvoir d'achat ?
Pourquoi ? Parce qu'il y a la seconde main. Parce que vous voyez, entre un sac d'une marque de luxe accessible, entre guillemets, et une marque de luxe, on va préférer acheter la vraie marque de luxe, entre guillemets, d'occasion. Et c'est pour ça que le luxe accessible souffre terriblement. Aujourd'hui, on veut Dior, on ne veut pas Coach, pour faire court, si vous voulez.
Coach est une marque américaine, hein, qui est évidemment beaucoup moins chère. C'est intéressant parce que vous citez une marque anglo-saxonne. Ce sont les anglo-saxons qui ont inventé les réseaux sociaux, le marketing digital, et c'est eux qui se sont perdus. Et ce sont eux qui se sont perdus en chemin, finalement.
Et qui souffrent aujourd'hui énormément.
Totalement. Le luxe français sort grandi de cette crise pour l'instant. C'est ça qui est assez étonnant. C'est quand même 1 million d'emplois sur la France, si vous voulez, direct et indirect ici. Par contre, le luxe anglo-saxon souffre terriblement. Même un Burberry a du mal. Et les marques américaines passent. Qu'elles sont dans l'accès, si vous voulez, souffrent. Et la seule qui arrive à résister, c'est Tiffany, mais Tiffany va être européen. Donc, voilà.
Ouais, c'est de la haute joaillerie. Hein. C'est...
Mais pas que. Pas que. Il y a aussi de l'accès.
Oui, d'accord.
Les cadeaux de Noël.
Voilà, les porte-clés, etc. Yebo Olaye, comment vous travaillez avec les réseaux sociaux pour votre cible jeune, pour la maroquinerie ?
Avec les réseaux sociaux, on est très très actif sur Instagram, parce qu'on a réalisé que Instagram est devenu l'endroit où on commence à créer son univers, à raconter une histoire, à générer une conversation et surtout à donner le coche, parce que votre cible reprend vos produits et réinvente des visuels.
Et comme vous disiez, vous passez par des influenceuses, des influenceurs du coup ou pas ?
Au départ, j'étais pas très fan des influenceurs parce que je voulais vraiment raconter l'histoire à travers mes propres canaux. Oui. Mais j'ai réalisé que les influenceurs, justement, quand on les choisit bien, quand ils ont un univers qui est proche du vôtre et une cible qui est connectée à celle que vous voulez attirer, on est capable, quand on collabore avec eux, de décupler en fait les résultats. Donc j'ai l'impression que les influenceurs, les influenceuses surtout, celles qui ont réussi à construire un véritable engagement et qui sont devenues des créatrices de contenu et qui ne sont pas juste là pour porter un produit et en faire juste la pub, mais qui vous englobent elles aussi dans leur univers, celles-là sont devenues très très puissantes et sont quasi incontournables pour pouvoir justement attirer des acheteurs ou avoir une visibilité plus grande et construire son écosystème.
Incontournable, mais il faut aussi que ces influenceuses et ces influenceurs soient contrôlables. Il y a évidemment souvent des relations d'argent entre le luxe et les influenceurs, mais c'est plus compliqué. Vous restez avec nous, on va voir comment, pour vendre du luxe aux jeunes, il ne faut pas forcément aussi vendre du rêve, mais du sens. Reste à savoir quelle est la sincérité de la démarche. Chez 7 milliards de voisins, en tout cas, on aime bien partager chez nous des coups de cœur. Je vous offre sur un écrin de diamant, allez, la rappeuse ougandaise, Awori, et le beatmaker Twani. Just had a fight. Talking never seems to make it feel alright. Guess I'll just keep going till I'm gone, alright. Wonder if you satisfy this appetite. Ride or die, no, not I. I never
signed up for this shit, no, I'm getting bolder with this riff, so I'm getting closer to this cliff, oh, I
RFI, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, on se pose la question de cette nouvelle cible jeune des marques de luxe tirées par l'Asie, avec des jeunes qui ont majoritairement maintenant moins de 40 ans, voire bien souvent moins de 25 ans. On en discute avec vous, Eric Brionne, cofondateur de la Paris School of Luxury. Et puis surtout, vous avez publié le Choc Z, la génération Z, une révolution pour le luxe, la mode et la beauté. On en discute également avec vous, Marie-Jeanne Serbin-Thomas du magazine Brune et Yeba Olaye, créatrice de la marque de maroquinerie Yeba. Alors, vous nous le disiez, Yeba Olaye, vous avez complètement changé de discours, de logiciel, d'histoire pour parler de votre marque aux jeunes. Comment on s'adresse aux jeunes? Vous nous le disiez, ils ont besoin de sens, ils attendent des valeurs précises de la part du luxe.
Oui, tout à fait. Mais peut-être pour vous donner un peu un aperçu de comment nous avons opéré cette transition, il faut savoir que moi, mon histoire personnelle, c'est que j'ai diplômé d'une école de commerce. J'ai fait pendant 10 ans du conseil en stratégie et finance. Et j'ai tout quitté pour lancer ma marque. Et ma marque, au départ, Yeba, s'adressait à des femmes qui me ressemblaient. Des femmes 35 et plus qui ont réussi plus ou moins et qui essayent vraiment de s'affirmer dans leur carrière. Et le discours était plutôt traditionnel, plutôt statement. Mm. Et j'ai réalisé que ça ne parlait pas aux jeunes. Les jeunes avaient besoin d'une histoire qui les transporte beaucoup plus. La marque a vécu sa vie et quelques années après, il s'est avéré que j'ai dû arrêter pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Ouais.
Vous avez lancé un podcast, hein, et puis surtout, pour chaque sac vendu, il y a 20 euros qui sont alloués à une ONG au Bénin pour payer l'inscription à l'école et les fournitures scolaires. Donc vraiment, vous avez changé de discours.
Oui, tout à fait. Parce que ce que j'ai réalisé, c'est qu'il manquait une véritable connexion entre l'origine même du nom de la marque, qui est Yeba, qui est mon prénom et qui est africain. Donc j'ai relancé une marque qui, je l'espère, va devenir la première marque de maroquinerie de luxe aux influences africaines, qui soit assez contemporaine, mais qui surtout, dans sa manière, dans le business model, soit beaucoup plus responsable, beaucoup plus durable. C'est-à-dire que les sacs, on ne les propose qu'en précommande. C'est à la demande. Les pièces sont faites dans un atelier en Italie avec beaucoup de soin. Et surtout, pour boucler la boucle, quand on achète une pièce chez nous, on reverse pour aider les petites filles à aller à l'école. Parce que le discours de la marque est toujours le même. On veut vous inspirer à vous réaliser. Et comment se réaliser personnellement si on ne peut pas avoir un impact positif dans ce monde? En arrivant avec cette histoire, tout de suite, on a vu un engouement incroyable pour l'enracinement de la marque dans ses origines africaines, mais surtout sa capacité à pouvoir proposer quelque chose de moderne et d'avoir un impact positif en retour.
Eric Brionne, est-ce que les jeunes aujourd'hui qui dépensent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros pour un sac quand ils ont moins de 25 ans ont mauvaise conscience alors qu'ils n'ont jamais été aussi
informés sur l'état du monde ?
Je pense pas. Ça dépend le message envoyé par votre sac. Si c'est une marque qui est politique et, on va dire, trumpiste, oui, ça, ils ont honte. Il y a quelque chose d'assez fascinant. Gap a essayé de sortir un sweatshirt moitié bleu, moitié rouge, vous savez, moitié démocrate, moitié républicain, pour dire oui, on arrive à être totalement les États-Unis. Ils se sont fait déchirer. En fait, ces jeunes, ils ont une passion luxe, mais en même temps, ils ont l'indignation luxe qui va avec, vous voyez. Quand je vous dis, c'est ça qui est très important. L'objet de luxe, le vêtement, c'est le manifeste de leur conviction. Ça doit se voir ici. Donc, si votre marque, elle se bat pour des valeurs progressistes, d'inclusivité et bien sûr des valeurs sur la durabilité et l'écologie, ça marche.
Ouais, on est dans un paradoxe complet en même temps dans ce que vous nous dites, d'autant plus que quand vous avez un créateur qui lance un sac qui fait 5 cm de large, on peut ranger uniquement un timbre-poste et qui se porte au bout du petit doigt et qui coûte plusieurs centaines d'euros. C'est quoi
Emmanuel. Sinon, c'est pas du luxe.
Ouais, c'est quoi la durabilité? C'est quoi les valeurs?
Mais la durabilité du luxe et de l'objet luxe, elle est fondamentale. Regardez la définition que donnait Hermès de l'objet luxe, c'est ce qui se répare. On n'achète pas 20 sacs Chanel, on en achète un et
d'accord.
On le garde tout.
Non, mais là je prenais volontairement l'exemple de ce délire total d'un sac, on ne citera pas la marque, mais d'un sac de 5 cm qui a cartonné.
Oui, mais parce que du coup, il était symbole aussi de peut-être de peu, mais mieux. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. En fait, je pense que le luxe est naturellement, dans la consommation, en tout cas dans ses valeurs, totalement en phase avec non pas une surconsommation, mais une consommation du mieux versus le plus.
Mais peu, mais mieux. Mais en même temps, Instagram, TikTok, etc. montrent le contraire, qu'on est dans une surenchère, qu'il faut que ça change tout le temps, qu'il y a tout le temps du nouveau, donc on ne garde pas, donc on change, donc on rachète.
On rachète, mais on revend. Oui. Et donc, du coup, vous voyez, en fait, on est dans un mode circulaire. Les choses sont complexes, je suis d'accord avec vous. Moi, c'est pas le luxe qui me toque, c'est par exemple les jeux vidéo. En ce moment, vous savez, il est sorti de la PlayStation 5, par exemple, qui plaît énormément aux jeunes. Eh bien, aux États-Unis, on a annoncé qu'il y avait 60 avions gros porteurs qui allaient livrer des PlayStation 5. Mais ils ne se sont pas offusqués. Pourtant, 65 avions gros porteurs, ça pollue, vous voyez ici.
On est bien d'accord. Ils sont paradoxaux. Donc, alors, il y a l'écologie, la durabilité, le féminisme, le respect des animaux. Enfin, il faut que le luxe coche toutes les cases aujourd'hui, Marie-Jeanne Serbin-Thomas.
Oui, et ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis quelques mois, toutes les maisons de luxe ont embauché des gens qui s'occupent de la diversité. Au moment de l'affaire George Floyd, le groupe Kering a donné plus $1 million donc à des associations de lutte contre les discriminations faites aux Noirs. Pourquoi on ne va pas forcément dire que ce n'est que du marketing, mais parce qu'on s'est aperçu que dans les manifestations aux États-Unis, il n'y avait pas que des Noirs, que c'était des populations complètement arc-en-ciel, des jeunes, des vieux, beaucoup de jeunes qui étaient en train de protester aussi contre les violences policières. Et les marques de luxe sont obligées de tenir compte de ça si elles veulent s'agréger de nouveaux consommateurs et surtout si elles veulent garder les anciens, c'est-à-dire aussi bien les parents des acheteurs du luxe que les jeunes aujourd'hui. Parce qu'il faut voir aussi que les jeunes consommateurs n'achètent pas la même chose que leurs parents. Vous allez très peu voir une jeune fille de 22 ans acheter une veste Chanel. Par contre, elle va craquer peut-être pour le mini bag ou alors pour le parfum ou alors les sneakers à 900 euros. Donc, il y a ça. Et puis, il y a cet apprentissage aussi qu'on fait. Parce que maintenant, on parle de la génération alpha, c'est-à-dire encore plus jeune que la génération Z, c'est-à-dire des petits de 15 ans. Et il y a des marques qui commencent à
avec
proposer...
Avec le pouvoir d'achat des parents. Là,
avec le pouvoir d'achat des parents, bien sûr, bien sûr.
La jeunesse n'est pas un mouton marketing, si vous voulez. Quand une marque se dit solidaire du Black Lives Matter, ils vont vérifier derrière si c'est la réalité. Ils vont vérifier derrière si, en effet, dans votre COMEX, vous avez un pourcentage d'Afro-Américains qui sont là et qui sont bien là. Et si ce n'est pas le cas, ils se font défoncer sur TikTok. C'est ça qui est assez incroyable, c'est cette jeunesse, elle sait utiliser des codes, vous voyez, d'utiliser l'humour et l'indignation en même temps.
Via des influenceurs qui vont vérifier toutes ces informations.
Ah oui, il y a le double-checking, hein. C'est ça qui est très intéressant.
Oui, et tout à fait. Tout à l'heure, on parlait du podcast que nous avons lancé. Pour être honnête avec vous, c'est le podcast qui nous a crédibilisés à travers le podcast L'Essentiel. Nous invitons des femmes à partager leur parcours Et en fait, c'est tellement important de, finalement, quand on fait une promesse, de montrer que derrière cette promesse, il y a une action et que la marque est transparente dans sa manière de procéder. Et effectivement, il y a eu tout cet engouement pour le Black Lives Matter, tout cet engouement pour le féminisme, mais les jeunes aujourd'hui sont très critiques. Ils vont aller regarder qui sont ces personnes qui s'associent à votre marque, qu'est-ce que la marque fait concrètement et sur le terrain pour justement joindre l'action aux mots. Et comme le disait tout à l'heure, c'est impossible aujourd'hui d'avoir un discours sans être dans l'action et sans être concret et transparent, pour une marque en tout cas.
En conclusion, Éric Brionne, ce luxe plus politisé que jamais, finalement, tout sauf futile, en tout cas dans son positionnement. Et la recette, ça serait alors l'asile digital et puis des valeurs, c'est ça, pour plaire aux jeunes ?
Oui, et un luxe empathique, tout simplement, qui n'est pas sur sa tour d'ivoire. Moi, je crois que déjà, il faut les comprendre. Et ça, vous voyez, vraiment, le luxe bat pour vraiment les comprendre. Et je pense que la phase ultime, c'est co-construire avec elle et supporter les luttes de cette génération qui est, attention, qui n'est pas un monolithe, qui est très complexe, avec beaucoup de tribus, ils n'ont pas forcément les mêmes combats. Donc, il faut arriver à avoir, vous voyez, cette pensée complexe, mais tellement généreuse.
Oui, d'ailleurs, les jeunes Américains sont finalement moins intéressés par l'écologie que les Asiatiques, que les Chinois. C'est ce qu'on voit dans des études, ça peut,
ça peut paraître... On va dire, voilà, la cible américaine, elle est clairement dans le social, ici. Par contre, en effet, la cible chinoise, elle est radicalement écologique. Je pense que le reportage que vous avez fait au départ sur le mall, ça devait être, on avait SKP Beijing, qui est le plus grand mall luxe de Beijing, et la signature, c'est le meilleur air de Shanghai, pas pour rien, vous voyez.
L'air le plus pur, en tout cas le moins pollué.
Voilà.
Marie-Jade Serbin-Thomas, en tout cas, l'enjeu est énorme pour le luxe de comprendre cette jeunesse, hein, l'enjeu économique.
Alors, l'enjeu est énorme parce que il faut bien diversifier les marchés. Quand il y a des problèmes comme cette pandémie mondiale, il faut que le luxe, c'est du business, hein. Il faut que le luxe continue ses activités, même si tous les boutiques de l'avenue Montaigne à Paris sont fermées depuis des mois, même si les hôtels de luxe sont fermés depuis des mois. Donc, il faut bien qu'ils trouvent des relais de croissance. Mais ce qu'on peut leur reprocher, c'est finalement d'avoir ce regard très complaisant vis-à-vis de leurs acheteurs asiatiques et puis d'aller dans l'air du temps. Mais tout ça est très, très superficiel. C'est très business orienté. Et on peut vraiment se dire que les attentions qu'ils donnent aux groupes qui militent aux États-Unis contre les discriminations raciales, ils ne les donneront jamais en France. Ils ne les donneront jamais dans les pays européens. Donc, il y a deux poids, deux mesures. Plus vous avez d'argent et plus on va aller vers vous pour vous en donner encore plus pour votre argent. Mais finalement, autour de vous, le luxe ne regarde pas ce qui se passe autour d'eux à Paris. Les grandes maisons de luxe sont en France, mais elles ne regardent pas ce qui se passe en France. Je n'ai jamais entendu dire, à part peut-être le groupe Guerlain qui a financé des études sur la drépanocytose, qui est une maladie qui touche essentiellement les populations noires. Donc, mais c'est à la suite donc, de la bévue qu'avait faite M. Guerlain en mettant un petit peu en cause le travail des populations noires. Donc voilà, le luxe regarde loin quand ça l'arrange, parce que là ça l'arrange, parce que c'est de l'argent, mais il devra aussi regarder ce qui se passe juste en bas de chez eux. Et ça, ils ne le font pas.
Affaire à suivre, en tout cas. Et puis surtout, il faudra voir dans les années à venir si le continent africain réserve de grandes surprises au luxe. Merci à vous tous. Marie-Jeanne Serbin-Thomas, rédactrice en chef du magazine Brune. Merci Yeba Olaye, créatrice de la marque de maroquinerie Yeba. Et puis on peut retrouver votre podcast L'Essentiel. Et merci à vous, Éric Brionne, le choc Z, la génération Z, une révolution pour le luxe, la mode et la beauté. C'est paru aux éditions Duno. Et puis pour bientôt, donc début 2021, c'est ça. Luxe et résilience.
Exactement, mais je n'étais pas forcément d'accord. Regardez, hier, LVMH a soutenu lourdement, avec force, la grande manifestation contre les violences faites aux femmes. Donc, ils réfléchissent aussi à ce qui se passe en France et ailleurs.
Ouais, on ne prend pas beaucoup de risques, hein, quand même, à défendre les femmes battues. Merci beaucoup. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Lundi, 7 milliards de voisins, on parlera du plaisir féminin. Un sujet encore tabou, mais pas dans toutes les générations et pas pour toutes les sociétés, à méditer en attendant de donner la parole à Diara Ndiaye et qui va nous annoncer le programme du week-end sur RFI dans Alors on dit quoi. Et tout de suite, c'est Todo Bien.
Alors, on dit quoi ?
Et la voisine Diara Ndiaye vient de nous rejoindre chez 7 milliards de voisins. Bonjour Diara.
Bonjour Emmanuel.
Alors là, on fait le grand écart. On a parlé du luxe pendant toute l'émission. Votre émission ce samedi dans Alors on dit quoi ? C'est l'impact de la pauvreté chez les jeunes.
Effectivement Emmanuel, et je vous propose de prendre la direction de la Mauritanie. La période de croissance soutenue entre 2008 et 2014 s'est accompagnée de quelques progrès pour les ménages. Mais est-ce que c'est le cas particulièrement pour la jeunesse mauritanienne ? Nous avons promené nos micros dans les rues de la capitale, Nouakchott.
Je m'appelle Mohamed Ba, je suis étudiant en gestion des entreprises et je vis avec ma famille dans une petite maison à Basra. J'ai deux sœurs et trois frères. Mon père est à la retraite et ma mère ne travaille pas comme beaucoup d'autres mères africaines. Et en ce moment, je devrais aller en cours seulement. Mon père n'a plus les moyens de payer ma scolarité. Et moi aussi, je suis au chômage. Parce que pour avoir un travail dans ce pays, il faut des relations, avoir un bras long, on sait tout ce que c'est. Et mes frères et sœurs aussi ont leurs propres problèmes. En gros, c'est pas la joie.
Eh bien encore beaucoup de défis à relever donc pour toute cette jeunesse mauritanienne, Diara.
Effectivement Emma, et on va en parler demain à 10h10, temps universel sur RFI.
C'est bien noté, on sera à l'écoute Diara Ndiaye. Alors on dit quoi sur RFI ? Merci aussi à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Juliette Brault, Elsa Olaizola, Romain Dubrac. Toutes nos émissions sont évidemment dispo en podcast. Une fois téléchargées, je vous le rappelle, sur le continent africain, il n'y a plus besoin de connexion Internet. Pour écouter notre compte Instagram, c'est 7 milliards RFI. Et dans quelques instants, ce sera le journal.
« 7 milliards de voisins, c'est fini !»